Bonsoir. La société civile de la commune rurale d'Oïtcha, dans le territoire de Béni au Nord Kivu, a décrété trois jours de ville morte à compter du dimanche 28 juillet 2024. Cette décision fait suite aux récentes attaques des EDF qui ont coûté la vie à plus de 90 civils dans le groupement de Babila Bakaïkou en l'espace d'une semaine. Le président de la société civile locale a indiqué que cette initiative vise à interpeller les autorités et leurs partenaires internationaux sur l'ampleur des violences dont les civils sont victimes dans la région, tout en espérant une réaction du gouvernement et de la communauté internationale pour mettre fin à ces massacres récurrents. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Elvis Kiaya Asongia. Il est député national, élu de la ville de Béniville. Il est cadre du parti politique Burek, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Kiaya, voilà, Asongia, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Richard Kirimba, premier vice-président de la société civile du territoire de Béni au Nord Kivu. Monsieur Kirimba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et avec nous dans ce studio, Juvenal Mounoubo, avocat, député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Juvenal Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly. Bonsoir à tous les auditeurs.
À Béni au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 92.0 et si vous êtes en dehors du pays, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en live sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous parlons de la situation sécuritaire dans le territoire de Béni au Nord Kivu, précisément dans le groupement Babila Bakaïkoa, voilà, où 90 personnes ont été tuées par les rebelles EDF en l'espace de 8 jours, soit du 16 au 25 juillet dernier. André Kitenge, qui est en ligne depuis Béni, nous en dit plus.
André Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Donna Mazimba, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Quelle est, à l'heure actuelle, la situation sécuritaire actualisée du territoire de Béni?
La situation sécuritaire ce mardi est généralement calme dans le territoire de Béni. Aucune attaque des rebelles des ADF n'a été signalée ces deux derniers jours.
Peux-tu alors nous rappeler les faits des différentes tueries de la semaine dernière?
Dans le territoire de Béni Dona, le bilan des récentes attaques des rebelles des ADF à Babila Bakaïko, une localité du secteur de Bénimbao, mercredi 24 et jeudi 25 juillet, était passé d'une vingtaine à 50 personnes tuées, ce qui porte le nombre total à 90 personnes tuées en l'espace de 8 jours, soit du 16 au 25 juillet. Des dégâts matériels importants ont été également enregistrés, rapporte la société civile locale. Il faut dire que ces attaques des rebelles des ADF ont été perpétrées dans trois villages de la localité de Babila Bakaïko, dans le groupement de Batangimbao, à savoir Mangambo, Katerin et Kotaokola. Selon Kinos Katuo, le président de la société civile locale, les rebelles des ADF sont devenus actifs dans la région. Cet acteur de la société civile avait indiqué à son temps que plusieurs autres corps de personnes tuées gisaient encore sur le lieu du drame faute d'accessibilité dans la zone.
Quelle est la réaction de l'autorité de la province?
Dona Madimba, pour l'instant, il est difficile de savoir quelles sont les dispositions prises pour la sécurisation de la population, étant donné que l'armée ne s'est pas encore prononcée depuis les dernières attaques des rebelles des ADF. Toutefois, la société civile qui sollicite les opérations conjointes FRDC-UPDF dans la région indique que les soldats des FRDC déployés dans la région poursuivaient encore les assaillants dans la brousse.
André Kitenge, je vous remercie.
Merci Dona Madimba.
Merci Dona Madimba et André Kitenge pour tous ces détails par rapport à la situation sécuritaire dans le territoire des Béni. Merci aussi à les chers auditeurs et internautes, vous êtes très très nombreux. On s'ouvre sur la page Facebook de Radio Okapi. Henri Bangombe pense, estime que trop c'est trop, il faut que le gouvernement réagisse. Amos Déby nous suit depuis Bounia en Ituri. Serge Pagdo depuis la cité Mokambo dans la province du Haut-Katanga. Merci de suivre Radio Okapi. Richard Kirimba, vous êtes premier vice-président de la société civile du territoire de Beni, au Nord Kivu. Vous avez décrété trois jours, voilà, ville morte à compter du dimanche 28 juillet, justement pour protester contre cette insécurité dans le territoire des Beni causée par les EDF. Comment ça se passe?
Oui, madame, merci. Nous voulons d'abord remercier en premier lieu Radio Okapi de s'être intéressé à la question de Beni, de Oicha, parce que c'est une question de nous autres qui vivons aujourd'hui sans la certitude de vivre demain. Voilà, malheureusement, la situation inhumaine de la population du territoire de Beni. Vous parlez de... nous venons d'écouter la synthèse des incidents de deux dernières semaines, mais il faut y ajouter l'incident d'hier lundi, parce que ce qui s'est passé dans le groupement Banda Vilemba hier, c'est 6 morts, donc qui s'ajoute aux 90 morts que vous venez d'invoquer. Et là, c'est en chefferie de Wallace et Vukutu, en localité de Mutuei, village Ouessa. Nous sommes de l'autre côté, donc du côté de la province de l'Ituri. Alors, Oicha, madame, c'est une agglomération qui héberge environ 183 049 âmes. À plus de cela, il faut ajouter 1456 ménages déplacés se trouvant à Oicha, qui s'ajoutent à la population, les ménages qui se trouvent dans des sites déplacés, en plus d'environ 25 000 autres familles, ménages qui se trouvent dans des familles d'accueil, dans une condition de vulnérabilité comme ça. Et des morts qui sont enregistrés régulièrement dans des villages du groupement Bambou Bakisiki, c'est plutôt le groupement Bambou Bakisiki parce que vous avez parlé du groupement Bakaiku, c'est plutôt Bambou Bakisiki. Disons Batangimbaou et Bambou Bakisiki, ce sont les deux groupements qui sont voisins et qui touchent aussi la partie Ituri. Alors, au groupement Batangimbaou, des morts de trop se sont enregistrés la semaine passée. Mais cela s'est ajouté, madame, à 96 autres personnes qui ont été tuées dans le groupement Bassoa Madiwe du 4 juin au 7 juin 2024. Vous aviez aussi couvert ces incidents-là. Alors, tout cela provoque une sorte de colère de plus dans la population. C'est un deuil de plus dans la population. Au niveau de la société civile, on s'est dit, mais trop c'est trop quand même, il faut qu'on réfléchisse, qu'on essaie de hausser les tons. Est-ce qu'on peut rester à la maison trois jours pour pleurer? Vous avez dit à dater de dimanche, sur base d'une assemblée de la population, de la société civile. Et voilà comment les trois jours ont été décrétés, qui vont être évalués ce mercredi à Oicha, toujours comme chef-lieu du territoire de Beni. Pourquoi y réfléchir? Pourquoi hausser les tons ainsi? C'est parce que chaque semaine, avant on disait, je l'avais d'ailleurs dit sur les antennes de Radio Okapi, que la moyenne était presque de 25 morts par semaine. Mais aujourd'hui, si vous comprenez l'évolution de la situation avec moi, la moyenne est passée de 25 à 50 personnes tuées par semaine. Et quel type de mort on donne à notre population? Il s'agit de morts horribles. On égorge, on éventre. Et puis, des fois, les gens meurent, mais ne seront pas retrouvés. Ils pourrissent à même le sol. Des fois, les gens meurent, on n'est pas capable d'accéder à l'endroit pour récupérer même les morts. Donc, nous sommes en train de vivre de manière indigne, inhumaine, mais même lorsque nous mourons, nous sommes en train de mourir de manière inhumaine.
Mais pendant tous ces massacres, où est l'armée? Où sont les forces de sécurité?
C'est ce que je disais. Donc, pendant que tout cela, nous le vivons, on ne sent pas une sorte de mobilisation proportionnelle au malheur de la population. Lorsque je parle, on ne sent pas une mobilisation proportionnelle. C'est par exemple, on sait voir l'État congolais, on sait voir le gouvernement et d'autres acteurs s'intéresser beaucoup plus à d'autres problèmes du pays, comme l'agression M23, comme d'autres incidents, comme des morts au stade dans un concert, et nous ne sentons pas une mobilisation. Parce que vous dites, où est l'armée à ce moment-là? Certes, Au niveau local, il y a eu à un moment donné changement. Actuellement, c'est le général Bruno Mandefou qui contrôle les opérations, qui mène les opérations, offrant à lui une sorte de détermination. Il est en train d'essayer de réduire l'indiscipline au sein des FARDC, par exemple, de ravir les biais des populations à des barricades à différents niveaux. Pas au laissant, mais il y a des défis, madame. Je vais essayer de vous citer certains défis que nous, au niveau de la société civile, on est en train d'enregistrer et qui peuvent faire à ce que la guerre ne puisse pas évoluer dans la zone. Par exemple, les effectifs des militaires et engagés sur les fronts sont toujours instables. Et des fois, les petits effectifs qu'il y a sont même délocalisés de la zone pour aller renforcer, entre guillemets, la guerre contre le M23. Et tout ça, les rebelles profitent. Parce que si vous analysez bien la question, les trois dernières semaines qui ont été sanglantes pour le territoire de Beni, c'est aussi le moment où il y a eu ce qu'on appelle, je ne sais, trêve humanitaire ou Kosor. Donc, à un moment donné, lorsque les M23 ont progressé jusqu'à vers les Lubero, en allant vers Butembo, beaucoup de positions militaires ont été dégarnies et des éléments sont allés vers le sud pour renforcer la ligne contre les M23. Et tout ça, madame, ça profitait à la réorganisation des ADF qui ont beaucoup plus massacré les populations. Et voilà, ça c'est un premier défi. L'autre défi, c'est le défi de logistique. On dit, à Kinshasa, ça s'est dit, même dans des institutions, ça s'est dit que on renforce l'armée, mais nous qui sommes sur terrain, on ne les sent pas. Il y a des unités qui n'ont même pas de jeeps militaires et qui contrôlent plus de 50 kilomètres à brousse, et mais dans des endroits où il y a des routes qui peuvent être accessibles par les véhicules militaires. Mais on ne voit pas. Il y a donc des militaires, des fois, vous avez même pitié de leurs conditions, alors que ça se plébiscite au niveau national que non, on a loué des moyens. Ça, c'est un autre défi. Il y a aussi le défi de sédentarisation de certaines unités. Allez-vous croire si je vous disais qu'il y a des endroits dans notre territoire où il y a des unités qui viennent de passer plus de 7 ans? Une unité, un régiment, qui passe plus de 7 ans dans une contrée, pensons-nous que cette unité va continuer à être efficace dans la lutte contre cette rébellion ADF? En tout cas, à notre avis, nous pensons que ça, c'est parmi des problèmes qui font à ce que les choses ne puissent pas avancer du côté opération militaire dans la zone. Donc, des fois, il y a des relèves des troupes et des relèves, on laisse des fois des positions vides, les ADF viennent profiter. Et tout ceci se passe aussi à cheval entre la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, de ce côté-là des villages que vous avez cités, Kota Okola, Mangambo, Beu et Kosor. Donc, du côté de l'Ituri, c'est un autre défi. Du côté de l'Ituri, on ne sent pas une organisation de l'armée comme telle, une sorte de riposte contre l'ADF. C'est que l'ADF, une fois qu'il s'installe de l'autre côté de l'Ituri, il se sent à l'aise. Et quand il vient tuer les gens ici au Nord Kivu, après le forfait, il peut rentrer dans les brousses de l'Ituri pour se cacher là-bas. Merci. Donc, l'absence d'une coordination, une coordination opérationnelle de l'armée, que ce soit du côté Ituri et du côté Nord Kivu dans les villages à cheval.
Elvis Kiyaya Tsonga, vous êtes député national, élu de Bénéville, cadre du parti politique Burek, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Plus de 90 civils tués en l'espace d'une semaine dans le groupement Babila Bakaiko. Nous sommes là dans les territoires de Béni, au Nord Kivu. Comment on peut expliquer cela? Vous venez de suivre la société civile qui dit que les EDF sont devenus très actifs dans cette partie du territoire. C'est vrai que l'armée essaye de poursuivre ces rebelles, mais les effectifs ne sont pas suffisants, la logistique manque. Comment on peut expliquer cela?
Effectivement, madame, je pourrais qu'abonder comme mon frère de la société civile qui venait de tantôt de dénumérer certains défis à relever. Parce que vous voyez vous-même, quand on s'est concentré sur le front de M23 autour de Kosor, il y a maintenant un relâchement presque de la partie Beni et Beni territoire qui a été constaté par le parce qu'on prenait le militaire qui allait renforcer le front. Et là, comme l'avait dit mon frère de la société civile, s'est réorganisé. Et voilà qu'avec ça, nous avons alerté, nous sommes sur le terrain, comme député à caucus de Bénéville et Territoire. Tous ces éléments, nous continuons à les récolter parce que, en tant que député, nous avons pour rôle venir plaider pour ce que nous avons vu sur le terrain. Nous avons vu comment la population est en train de souffrir. Nous sommes partis de Cantine, Mangina, aujourd'hui, Watalinga, et par-ci, par-là. Donc, ce que mon frère de la société civile est en train de décrier, ce que nous avons aussi, nous venons de noter dans le cadre de nos vacances parlementaires. En ce budgétaire de septembre, nous comptons maintenant y travailler d'une manière musclée.
Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec les autorités militaires de la province, le gouverneur, les maires, par rapport à cette situation?
Oui, oui. Il y a même des situations qui se vivaient en ville de Béni, il y a eu des solutions grâce aux plaidoyers et aux analyses qu'on faisait ensemble. Et pour le territoire, c'est la même chose. Nous sommes entrés même à Cantine, nous sommes allés avec le chef d'état-major général adjoint, et à Boutembo, même chose. Et à Béni, nous avons été là, nous sommes en train de faire des tournées pour récolter tous ces désidératants. Parce que nous savons que si nous restons à Kinshasa, sans avoir papé du doigt ce qui est en train de se passer vis-à-vis de la population qui nous a élus, là on sera écrit de ce qui est en train d'être fait. Bon, tout d'abord, je devais commencer par présenter nos compassions et ce sera contre là, c'est toutes les familles qui ont perdu le leur. Et nous sommes là vraiment pour ça. Ce que le président de la société civile venait de dire, c'est ce qu'il y a. Nous avons aussi récolté ça.
Mais qu'en est-il des opérations conjointes FRDC et UPDF dans la région?
Les opérations conjointes UPDF et FRDC nous ont vraiment aidé parce que partout, si aujourd'hui on peut espérer passer la route Beni-Kasindi sans être inquiété d'aller Rwenzori, c'est parce qu'il y a eu cette opération. Elle est salitaire et nous voulons qu'elle puisse même s'étendre jusqu'à là. Parce que la population, quand vous le demandez, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut vous aider avec? Elle réclame également cette opération conjointe. Donc, elle est à saluer et nous allons aussi, nous avons mis dans nos plaidoyers que cette opération puisse continuer jusqu'à s'étendre vers Béou et Kossor.
Et vous estimez, vous demandez à ce que ces opérations puissent se poursuivre malgré tous les morts que l'on enregistre tous les jours? Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Vous constaterez avec moi que là où les opérations ne sont pas encore arrivées, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Donc je viens de vous citer la route Beni-Kasindi par exemple, le secteur Rwenzori. Et avant, c'était à Sayo, avant que Sayo, en ville de Beni, puisse avoir des problèmes. Quand les opérations conjointes sont arrivées à Sayo, et aujourd'hui ça marche quand même. Alors quand nous avons des problèmes, nous tous comme Congolais, ce sont les Congolais qui meurent, chaque jour, nous devons d'abord chercher des solutions. Et comme cela a été aperçu comme une solution palliative, on pouvait également l'emprunter partout là-bas, là où il y a encore des problèmes.
Juvenal Monobo, avocat et député national honoraire, analyste des questions de l'Est de la RDC. Les EDF, on en parle encore une fois dans cette émission, Dialogue en Congolais. On a fait plusieurs émissions sur ces groupes armés qui massacrent la population. Aujourd'hui, on revient encore sur ce sujet. Plus de 90 civils tués en l'espace d'une semaine, ça fait trop?
Effectivement, ça fait trop. C'est horrible. C'est horrible parce que c'est des compatriotes qui meurent. C'est des humains, hein, c'est des pertes de vies humaines, des gens qui ont des familles. Et là, ça devrait, comme l'a dit notre ami de la société civile, M. Richard Kirimba, ça devrait conduire à une plus grande mobilisation. Parce que je suis d'accord effectivement avec lui, donc je vais confirmer dans tout ce qu'il a dit, certains de ses propos. Je suis d'accord avec lui, on n'a pas senti vraiment cette mobilisation ici à Kinshasa, donc sur le plan national. Il faut savoir que c'était presque au même moment qu'il y avait un concert ici, d'un artiste chrétien, avec des morts, je crois 9 morts, mais on a senti quand même ici assez vite une réunion de sécurité, on a appelé toutes les parties prenantes. Mais moi, en tout cas, à moins que ça m'ait échappé, j'étais tout le temps sur l'actualité, mais je n'ai pas vu une mobilisation elle devait d'ailleurs être beaucoup plus grande que ça, parce que là, on parle de 90 personnes tuées. Bien
on
entendu.
On n'en a même pas parlé au Conseil des ministres.
Voilà,
parce
voilà.
Que lorsqu'on a subi le compte rendu du porte-parole, il n'a pas abordé cette question. Il n'a
voilà,
pas évoqué cette question.
Ça étonne quand même. Ça étonne quand même. Il ne suffit pas d'être de l'opposition pour le dire. Moi-même, je ne le suis pas. Je ne suis pas de l'opposition, mais il y a parfois certaines attitudes qui étonnent, comme ça. Et donc, sans hypocrisie, je m'en étonne moi aussi quand même. Mais je ne vais pas rester dans l'étonnement. J'invite le gouvernement à réagir. Parce qu'il faut effectivement une réaction du gouvernement par rapport à ça. Il faut une réaction de l'armée. Et la réaction de l'armée, ce n'est pas seulement les communiquer. Il faut envoyer des militaires au front. Et voir dans quelle mesure l'armée peut continuer sa lutte contre cette rébellion. Mais c'est quand même une question complexe aussi, je dois le dire ici, parce que notre ami de la société civile, au même moment qu'il interpelle Kinshasa, au même moment, il estime qu'on ne sent vraiment pas, hein, il a indiqué un certain nombre de faiblesses au sein de l'armée. Des faiblesses au sein de l'armée, oui, il y en a, mais je crois que la question, elle est ancienne et elle est complexe en même temps. C'est une rébellion qui était contre le régime à Kampala, en Ouganda, mais qui, par la suite, s'est radicalisée comme un mouvement terroriste et affilié même à l'international djihadiste. Et donc cette question n'est pas une question du seul apanage des Congolais, du gouvernement congolais ou même de la région. Raison pour laquelle moi je m'étais un tout petit peu moqué au fait quand il y a eu cette alliance ou je veux dire ce pacte entre Kinshasa et Kampala, hein, les opérations militaires conjointes entre les FRDC et l'armée ougandaise. Et à l'époque j'étais encore député, moi je me suis dit que ça ne devait pas être la solution parce que je savais que la position de l'Ouganda était quelque peu ambiguë par rapport à ce qui se passe. Il faut pas oublier que l'Est du Congo c'est une zone de business. Et il y a des Ougandais qui profitent de ça. Donc les rapports l'ont dit qu'il y a le commerce du bois dans cette zone-là. Et donc moi je me disais, est-ce que ce sont les Ougandais qui vont venir nous aider à traquer les ADF? Donc j'étais frileux déjà à cette époque-là. Et j'étais un contre tous, quoi. J'étais le seul à exprimer l'inquiétude par rapport à ça, parce que les collègues de Beni, de Butembo, de Lubero, presque tous, ils étaient pour l'intervention des Ougandais et ils estimaient que c'était la solution. Et donc je constate
que... Vous avez suivi Elvis Kiaya qui dit que là où il y a ces opérations, la situation sécuritaire s'est améliorée.
C'est ce que M. Richard ne pourrait pas confirmer. Donc ça, c'est un député en fonction qui l'a dit, mais l'acteur de la société civile, M. Kirimba, qui participe avec nous dans cette émission, vous pouvez lui reposer la question, il ne va pas confirmer ce qu'a dit les députés Elvis. Ça veut dire... Il faut aussi tenir compte de ce que disent ceux qui ne sont pas au pouvoir, quoi, les acteurs, notamment la société civile. Alors, je ne crois pas que ces opérations ont donné un bon impact sur terrain, parce que des massacres continuent. L'objectif, c'était de mettre fin aux massacres. Et c'était annoncé avec pompe à l'époque, quand les Ougandais sont intervenus. Et toute voix qui était contre cette intervention, au fait, c'est une voix qui était discriminée, en réalité. Alors, c'est une question complexe, comme je le disais. Il faut lire, hein, il y a des recherches qui ont été menées là-dessus. D'ailleurs, l'un de vos confrères a fait des études là-dessus, Kibelbel Nikes. C'est une question complexe, c'est une question de terrorisme, de terreur. On veut instaurer la terreur dans cette zone-là, dépeupler la population, donc chasser les gens. Il faut que les gens aient peur, fuient la zone, et que ça reste une zone des mafias. Hein, parce que c'est une zone où il y a des richesses, il y a les bois, il y a des minerais aussi. Hein, c'est pas très loin des zones telles que Mongwalou, dans l'Ituri, où il y a des mines. Donc on voudrait installer une sorte de Far West là-bas, où on inspire la peur à la population, on intimide la population à fond, la population fouille la zone, dégarnit la zone, et ça reste une zone des mafias, hein, de toutes sortes d'opérations mafieuses. Raison pour laquelle on devrait s'interroger vraiment sur le vrai rôle de services de sécurité en Ouganda, parce que le rôle dans cet espace Grand Lac, c'est de se partager des renseignements. Mais quel genre de renseignements nos voisins nous partagent par rapport aux ADF? Parce que c'est une rébellion ougandaise, hein. Donc ceux qui sont censés avoir un peu plus d'informations là-dessus, c'est des Ougandais qui les connaissent mieux que nous, quoi. Alors, dans un partage d'informations, on devait alors faire intervenir la communauté internationale, les grandes puissances, comme ça s'est fait ailleurs, là où on lutte contre le terrorisme, comme dans le Sahel, par exemple. Moi, j'ai toujours voulu assister à une mobilisation comme ça, où on voit, par exemple, les États-Unis, on voit ces grandes puissances qui ont une certaine expertise dans la lutte contre le terrorisme, nous aider à intervenir. Mais on ne peut pas laisser ça aux seuls efforts des FARDC.
Déjà, les FARDC sont débordés un peu avec l'AM-23, le Rwanda qui est sur terrain, le Rwanda qui essaie de faire avancer son front vers le nord. Hein. Actuellement, ils ne sont pas très loin de cette zone, hein. Ils ne sont pas très très loin de Beni, ils sont dans la zone dans les territoires de Lubero. Et donc, il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, les FARDC, ils ne savent pas où est-ce qu'il faut placer les curseurs finalement. Au moment où ils sont sur le front contre les ADF, et voilà, au dos, derrière, il y a une autre rébellion qui avance et tout ça. Donc, il y a des efforts qui ont été fournis, mais il faut quand même voir les limites quand même. Il y a quand même quelques limites au niveau de nos forces armées et ça méritait une intervention de la communauté internationale. Mais qui va convaincre la communauté internationale à intervenir? Ce sont les institutions congolaises, hein, les affaires étrangères. C'est le travail du ministère des Affaires étrangères, le travail du gouvernement, c'est le travail du Parlement aussi. Le rôle du Parlement, ça doit être de mobiliser le monde sur cette question-là. Hein, qu'il n'y a pas les Proches-Orient, qu'il n'y a pas les Moyen-Orient, et qui soit différent la situation là-bas qu'ici. Que la situation, elle est aussi préoccupante que celle du Sahel, que celle d'El Gabo, là-bas où il y a l'armée rwandaise qui intervient vers le Mozambique. Et donc, il faut mobiliser le monde. C'est ça le défi. Hein. Le gouvernement doit mobiliser le monde sur cette question. Et nous devons avoir de l'aide sur le plan des renseignements, sur le plan d'intervention, parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une lutte comme les autres luttes. Hein, c'est des gens qui se camouflent au sein de la communauté, et c'est parfois difficile de démêler finalement qui est ADF et qui ne l'est pas.
Justement parce qu'il y a des sources qui parlent de complicité voilà. Au sein de la population. Voilà, je vais poser cette question à Richard Kimba, lui qui est sur place.
Donc la question, elle est complexe. Il faut une mobilisation beaucoup plus forte. Une mobilisation pas seulement de la société civile, quand elle organise des journées villemortes, elle est dépassée, elle est outrée, quoi. Hein? Alors, il faut que le gouvernement prenne le relais. Il faut vraiment une mobilisation au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Vous savez que jusqu'à là, on n'a même pas encore installé les commissions permanentes. Il n'y a même pas la commission de défense et sécurité qui devait être installée, n'est pas là. Comment est-ce qu'on va organiser des auditions des ministres? Hein, quand est-ce qu'on va organiser
peut-être après les vacances parlementaires,
oui,
à la session,
mais la session de septembre. Elle sera budgétaire aussi, donc mm-hmm. Il risque d'être quand même débordé au même moment qu'il faut installer les commissions, au même moment qu'il faut étudier les budgets, au même moment qu'il faut trouver la solution à la question sécuritaire.
Merci. Alors Richard Kirimba, comme je venais de le dire tout à l'heure, on parle de complicité au niveau au sein de la population. On ne sait pas qui est ADEP et qui ne l'est pas aujourd'hui.
Oui, merci madame. Je vais parler de la complicité de la population, parce que nous, on va même au-delà de ça pour lire la complicité au sein des services, même de sécurité. Je vais y arriver. Mais je voudrais d'abord parler un peu des opérations Soudja que vous avez évoquées. Donc, l'intervention des Ougandais, UPDF, aux côtés des FARDC. Bien, en fait, si on limitait notre manière de penser, on pouvait bien dire que avec l'intervention ougandaise, que les choses se sont améliorées. Ça, c'est vraiment limiter notre manière de voir les choses si on les considère comme ça. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'armée ougandaise a commencé à travailler aux côtés des FARDC, vous savez comment les opérations se sont menées? On est comme si on était en train de chasser les ADF de l'Est vers l'Ouest. Donc, on est progressivement en train d'éloigner les ADF des villages de la frontière avec l'Ouganda pour les amener à l'intérieur du pays. C'est pourquoi les ADF qui étaient beaucoup plus actifs dans le secteur de Rwenzori, dans la chefferie de Watalinga, dans la chefferie de Bashu, là, ce sont vraiment des champs frontaliers avec l'Ouganda, ont traversé la route nationale numéro 4 et sont en train d'opérer dans les groupements Batangimbaou, ils sont en train d'opérer dans les territoires de Mambasa, dans les territoires d'Irumu, en Ituri, et récemment, ils ont même franchi les limites du territoire de Beni avec le territoire de Lubero. Ils sont même actuellement en train de tuer les gens en territoire de Lubero. Est-ce qu'on peut dire que des opérations sont bien coordonnées, sont bien planifiées au profit des populations congolaises? Est-ce qu'il faut aujourd'hui applaudir l'UPDF ou l'armée ougandaise parce qu'ils ont chassé les ADF de certains villages de leurs frontières pour les amener à l'intérieur du pays? Moi, je pense que cette question, elle est préoccupante et que l'armée congolaise devait cesser d'être sous-traitée. Donc, le service de sécurité congolais ne devait pas continuer à être sous-traité parce qu'on a déjà l'expérience, on a mené plusieurs militaires de la MONUSCO, ils n'ont rien fait, la situation n'a pas évolué de ce côté-là. Voilà qu'on a mené. Au début, on pensait que là où elle est, on ne pouvait pas être attaqué. Mais qui ont prouvé que même après leur arrivée, il y a des adeptes qui sont allés tuer les gens derrière eux. C'est le cas de Nobili. La fois passée, on a tué les gens à Nobili, alors que l'UPDF était déjà à profondeur. À Bachou, c'est la même chose. Donc, à Rwenzori, c'est la même chose. C'est que de ce côté-là, on ne pouvait pas se limiter à applaudir seulement que là où ils sont, les militaires ougandais, et que la situation s'est améliorée. Encore qu'il faut que je rappelle que si l'on estime que de leur côté ça va, c'est parce qu'il faut voir évidemment la logistique que l'armée ougandaise possède sur notre sol. Est-ce encore une fois applaudir ou c'est un autre danger? Parce que lorsque l'armée étrangère qui vient en appui évidemment à notre armée, mais est mieux équipée, même à terme de restauration, à terme de véhicules, à terme de munitions, à terme même de la tenue militaire, la dotation. Donc contrairement à notre armée, en tout cas pour nous, l'intervention de l'armée ougandaise était grand danger pour l'avenir de notre pays, l'avenir de ces entités dont nous sommes en train de parler ici de la situation.
Alors, très rapidement par rapport à la complicité, s'il vous plaît, Richard Kirimba, on court derrière le temps.
Oui, la complicité. On en a parlé plusieurs fois, la complicité de la population. Écoutez, madame, au début, c'était déjà vers les années 2013, les attaques meurtrières ont commencé dans les Watalinga et dans les Rwenzori, mais il y a eu beaucoup de kidnappings d'abord de la population par les ADF. Donc les ADF ont emporté des milliers de personnes dans les chefferies de Watalinga, secteur de Rwenzori et même dans le secteur de Beni Mbau. Et ces enlèvements, ce n'étaient pas des enlèvements pour aller être exécutés. Ces ADF ont pris une bonne partie de ces personnes kidnappées pour les amener à Brousse avec eux, pour les moraliser, pour les transformer et pour les utiliser comme ressources humaines dans leurs activités. Ce n'est pas tout. À deux reprises, les ADF ont attaqué la prison de Beni, la prison de Kangwai, emportant plus de 1000 personnes. La prison de Butembo, Kakwangura, emportant plus de 1000 personnes. Donc plus de 2000 personnes, environ 3000 personnes, avait été emporté par des civils, évidemment, qui étaient avec d'autres criminels, d'autres bandits, qui étaient d'ailleurs, qui ont été emportés aux vies et aussi de tout le monde. Alors, ces personnes kidnappées, ces personnes emportées dans les prisons, ont été utilisées dans les ADF. Ça, c'est une dimension de ce qu'on appelle, entre guillemets, complicité de la population. Mais actuellement, il ne faut pas dire, nous avons constaté aussi sur terrain, une autre forme de complicité. Une autre forme de complicité comment? Donc il arrive que certains jeunes s'organisent à complicité avec certains des services de sécurité pour les champs des personnes qui ont déjà fui la guerre. Et lorsqu'ils entrent dans les champs, c'est pour voler les produits des champs. Café et autres produits des champs. Vous savez que le cacao actuellement c'est l'or. L'or, je ne sais pas, ici parce qu'il n'y a pas de minerais à Oicha et à Viro, cacao qui est considéré comme le minerai végétal pour la zone. Ces jeunes, une fois ils vous racontent dans votre champ, il y a eu des cas où ils peuvent s'apprendre à vous au point même de vous massacrer. Alors, on peut penser donc à, par moment que on a été attaqué par les ADF alors qu'il y a des groupes de bandits civils qui se sont organisés à complicité avec certains dans certains services malheureusement. Pour s'apprendre à la population.
Merci.
Ça crée une confusion totale. C'est pourquoi nous sommes en train de les décrier au niveau de la société civile et dire qu'on se désolidarise de tout civil qui va se comporter au même niveau que l'ADEF. Parce que ça, nous ne soutenons pas.
C'est merci,
pas
nous, Richard Kirimba.
L'armée a le droit de tirer sur de tels civils qui se comporte comme les ADF.
Merci, on vous a suivi. On va prendre quelques auditeurs qui sont en ligne, qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport au sujet de ce soir. On va se rendre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur.
C'est Franck Bilal depuis la province de la Tchopo, dans la ville de Kisangani. La société civile fait bien son travail et sa mission, c'est lui, celle de d'interpeller le gouvernement à bien accomplir ses missions de la République, y compris d'intervenir dans les actions apolitiques et en politique. Cette dénonciation ne date pas d'hier, car cette partie du pays ne cesse de compter le nombre de morts chaque jour qui passe. À mon avis, l'état de siège instauré n'a pas produit les fruits escomptés, d'où il est nécessaire de les requalifier. Faire les sourdes oreilles des nombreuses dénonciations et interpellations faites par d'autres Congolais, peu importe leur statut politique, serait en partie une complicité d'orchestrer la mort de nos compatriotes. Si le gouvernement Sumino veut atteindre ses objectifs, le premier objectif que les Congolais seront contents d'atteindre est celui de fournir l'effort de pacifier cette zone meurtrie. Il y a de cela 3 décennies passées.
Elvis Kiaya, votre réaction, que pensez-vous du point de vue de Ali Franck Bilali qui nous a appelé de Kisangani?
Ok, vous savez qu'il y a un problème, quand la maison brûle, il faut que tout le monde cherche solution pour que nous puissions retrouver la quiétude et la paix. Ce qu'il dit, c'est vrai, et nous comme élus, on ne peut que recenser, prendre tout ce qu'ils sont en train de dire et amener maintenant au Parlement dès qu'il y aura session, voir comment les initier et faire autre chose. Alors, autre chose, je voulais que ce que M. Mounoubo a dit pour la mobilisation internationale, ceci ou cela, il est vraiment plus qu'impérieux de le faire parce que je vis le président Vital Kamerhe aller par-ci par-là pour aller faire valoir ce que les Congolais doivent faire pour que cette mobilisation soit aussi internationale, pour que notre pays puisse avoir une bonne place dans le Conseil des Nations.
Alors, vous avez estimé que les opérations conjointes FRDC et UPDF devraient continuer. Vous avez suivi la réplique de la société civile et même de l'honorable honorable député honoraire Juvenal Mounoubo sur cette question. Qu'est-ce que vous dites hein?
Malheureusement, lui aussi a été député. Il sait qu'avant, il y avait également la SADC qui était ici avec nous, l'album du musée Désiré Kabila. Quand il y a un problème et que l'on a estimé que cette guerre était maintenant une guerre de terroristes qui ne sont pas congolais et on a décidé par le président de la République d'amener par les opérations conjointes les Ougandais et nous qui sommes encore sur le terrain en train de récolter les désirateurs. C'est la population qui nous dit que non, appelez l'opération conjointe d'arriver ici chez nous. Ce n'est pas nous qui le disons, mais même la population elle-même, c'est elle qui réclame que non, il faut que l'opération conjointe s'étende jusqu'à là où il y a encore des problèmes. Donc, selon moi, en attendant que toute la diplomatie qui est en train d'être...
Je pense qu'on a un petit souci de connexion avec la ligne d'Elvis qui est à Tsongia. Vous êtes très nombreux, internautes, à pouvoir nous suivre sur Facebook et YouTube. Merci à Stagès Annonciata qui nous suit depuis Goma au Nord Kivu, David Wedi depuis Kinshasa, dénoncé, pleurniché, sans agir, n'est qu'une utopie quant au retour de la paix dans cette partie de notre pays. Merci beaucoup, Jado et Guilima Bukavu. Je me demande si cette insécurité que nous vivons dans la partie est se vivait dans la partie ouest et surtout à Kinshasa. Ne trouverait-on pas vite solution à ce problème? J'ai comme l'impression que c'est parce que ces atrocités se déroulent à 2000 km de la capitale qu'elles sont banalisées par la communauté tant nationale qu'internationale. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Kolwezi, dans la province du Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le gouvernement congolais semble être préoccupé par la situation de M23 et oublie la problématique des EDF qui sèment le chaos à Beni et à Ituri et la complexité de la situation dans la partie orientale du pays et la superposition des stratégies pour mettre fin à la crise qui secoue cette partie de la République semble compliquer le gouvernement congolais. En ce jour, on ne sait plus où est-ce qu'on en est avec la coalition FRDC-PDF. Quelle est la véritable situation? Je pense que les attaques des EDF démontrent qu'il y a encore beaucoup à faire sur ces sujets et que cette coalition n'a pas produit des résultats escomptés. d'autant plus que les massacres continuent.
Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec lui. Les opérations FRDC et PDF ne donnent pas de résultats. Et je crois qu'il faut y mettre fin, tout simplement. Surtout qu'il y a des rapports qui disent que l'Ouganda aussi appuie l'M23 dans cette agression. Et donc, c'est vrai, il y a deux fronts. Là-bas, il y a le front ADF et le front M23 Rwanda. Et je comprends que c'est normal que le gouvernement se trouve un tout petit peu écartelé, parce qu'il faut combattre à gauche, il faut combattre à droite. Et comme je le disais, par rapport au fond des ADF, il faut absolument un recours à la communauté internationale. Il faut vraiment une aide dans la lutte contre le terrorisme. Il faut changer des moyens d'élite. Si on reste avec les mêmes moyens d'élite, on va faire du surplace et nous serons toutefois toujours surpris par des attaques terroristes. Parce que l'ADF, c'est pas comme les autres groupes. Et par rapport à cette coalition des agresseurs qu'il y a ici, on peut trouver une solution politique. Raison pour laquelle il faut saisir l'opportunité qu'offre Luanda maintenant là. La rencontre ministérielle, il faut pousser vers une rencontre entre ceux-là, entre notre président Félix Tshisekedi et les présidents des pays qu'on nous dit que ces pays appuient ces rebelles pour voir comment on peut résoudre définitivement la question. Parce qu'il suffit que Kagame lâche son soutien au M23, eh bien le M23 va tomber le même jour. De même que l'Ouganda, parce qu'il a été dit que l'Ouganda est aussi derrière ce mouvement-là. Et donc ça doit se passer entre notre président de la RDC.
Ça c'est en ce qui concerne les M23 aux ODIF.
Par rapport aux ODIF, il faut une coopération internationale dans la lutte contre les ADF. Mm-hmm. Mais aussi, il ne faut pas exclure ce que doit être la contribution de la population. Je ne dis pas que la population est complice, mais je dis que les ADF sont infiltrés notamment dans la population. Et donc, il faut aussi recueillir les renseignements à partir de la population. Et donc, il devait y avoir une symbiose vraiment entre la population, les services de sécurité congolais et les services de sécurité dans la région avec l'accompagnement de la communauté internationale. Comme ça, on sait les traquer, on sait là où ils se cachent. Parce que si vous n'impliquez pas la population, vous ne connaîtrez pas les lieux où se cache cette rébellion. C'est une rébellion qui a fait longtemps sur terrain, qui n'est plus une rébellion comme les autres, qui est devenue un mouvement terroriste. Eh bien, il faut absolument impliquer la population qui doit collaborer étroitement avec les forces de sécurité pour voir dans quelle mesure déterminer les caches de ces ADF et voir dans quelle mesure on peut les éradiquer. Il faut cette coopération-là. Une coopération qui est locale avec les forces de sécurité, une coopération qui est internationale avec des nouveaux moyens de lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a d'autres pays qui luttent contre le terrorisme, et je crois qu'il faut aussi expérimenter cela à l'est du Congo.
Jonas Kasereka Kitambalé, le président de la République dénonce l'armée tout de même. À ce niveau, que fera la société civile? Le gouvernement congolais doit s'assumer pour résoudre le problème de l'est, car la situation ne fait que s'empirer avec des morts en cascade. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Bukavu, Sud Kivu.
Fekiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. L'appel de la société civile de la commune rurale d'Oicha, décrétant 3 journées ville morte à compter du dimanche 28 juillet, est une bonne chose en soi. Mais est-il qu'en face, il y a des autorités insensibles à la boucherie humaine et dont est victime cette population qui ne sait pas à quel sens se vouer? Il est inadmissible dans un pays qui ait deux poids deux mesures. Juste quelques morts au stade des martyrs, nous avons vu une réunion d'urgence du gouvernement. Comme si les Congolais de la capitale sont plus citoyens que les autres qui meurent chaque jour, sans même un mot de compassion de la part de ceux qui nous gouvernent. Même si l'État est incapable de sécuriser cette situation, aller jusqu'au point de ne pas compatir, ça frise non seulement la trahison, mais un manque de respect pour la vie humaine. Pourtant, la Constitution affirme le caractère sacré de la vie humaine.
Richard Kirimba, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu à proposer des solutions, plusieurs solutions pour éradiquer ce phénomène EDF dans cette partie du pays. Malheureusement, les résultats ne sont pas tels qu'on les attendait. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour mettre fin à ce phénomène, à cette rébellion ou à ces terroristes, comme l'a dit Juvenal Monobo tout à l'heure?
Oui, oui. Je veux commencer par dire que les prêts de réalisation de l'armée congolaise perdurent grâce à la collaboration de la population. Et la population collabore même à offrir sa vie sacrée Donc ça, c'est quelque chose à renforcer, qui va aider. Mais je voulais aussi ajouter à ce que l'auditeur a dit. La population de ce côté, des droits de Béni, nous sommes en train de noter le comportement du gouvernement. Il n'y a pas que l'exemple des 9 morts à Kinshasa et tout le gouvernement se mobilise. Mais il y a aussi des propos de certains officiels. Quelqu'un d'autre avait dit que nous sommes à 2000 km de Kinshasa, c'est loin, c'est pas la guerre. Quelqu'un d'autre, je crois que c'est le ministre de la Communication arrivé à Goma, avait dit que les morts dans les sites de réfugiés, c'était grave, on ne pouvait pas les comparer avec des petites violations qui se passent ailleurs. Et la population a considéré les ailleurs là comme bénis. Et l'absence de l'aide aux populations qui souffrent ici dans la zone est considérée aussi une action de minimiser ce qui se passe. Je peux vous dire qu'actuellement, les médecins, les personnels soignants sont en grève depuis plus de 2 mois, tout simplement parce qu'ils réclament quoi? Les affectations. Il y a plus de 3500 infirmiers, médecins, personnels de santé qui n'ont jamais eu d'affectation. Seulement 4% sont salariés par l'État congolais dans un contexte de vulnérabilité. C'est tout ça qui montre, qui prouve que, en tout cas, il n'y a pas d'action de l'État du côté ici de l'Est, du côté de Béni. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit, quelqu'un a parlé, notre co-débat, l'honorable, le député honoraire, a parlé de la mobilisation internationale. Mais nous y ajoutons quelque chose. La mobilisation internationale, oui, mais attention, l'État devrait faire sa part. Autorité de l'État. Madame, il y a plusieurs villages ici chez nous qui n'ont jamais connu des policiers, qui n'ont jamais connu des services de sécurité, des villages où il y a les gens, mais qui ne connaissent pas les dispositifs sécuritaires. Mais comment, dans un environnement d'absence de l'État, comme ça, les rebelles ne vont pas déambuler, passer d'un triangle, parce qu'ils étaient dans un triangle géographique. Aujourd'hui, ils sont dans une forme polygonale dont on ne connaît même pas le nombre de côtés, allant jusqu'à des provinces voisines. En tout cas, ça c'est à réorganiser. Avant de crier à l'aide, nous devons d'abord organiser la logistique de notre armée, organiser les effectifs, maintenir, contenir les entités, et cela passe par les renforcements des effectifs, la logistique, et même intervenir pour aider la population, soutenir cette population. Mais pendant ce temps, je vous assure que il y a des taxes qui se font payer, il y a des intimidations dont sont victimes les acteurs de la société civile, même pour les 3 jours qu'ils mortent ici. Je peux vous rassurer qu'il y a des acteurs parmi nous qui ne passent plus nuit dans leur maison, parce que les autorités à la base, les autorités locales sont en train de nous intimider comme pas possible, avoir pleuré pendant 3 jours. Vous comprenez que, en tout cas, ce qui se passe, c'est malheur de trop. Moi, je suis en train de remercier, en tout cas, tous les auditeurs qui ont abordé dans le sens de plaider pour notre cas, Radio qui plaide chaque jour pour notre cas, mais je vous assure, nous sommes en train de vivre et nous sommes en train de mourir de manière inutile.
Merci Richard Kihimba Elvis Kiyaya. Je rappelle que vous êtes député national élu de Béniville, cadre du parti politique BUREC, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Quelles sont vos propositions pour le retour de la paix dans cette partie du pays?
Bon, ma proposition est que, à dernier lieu, il faut que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous venons de dire là, cette mobilisation internationale, locale, et que l'armée soit si rééquipée, comme le disait tantôt le président de la société civile. Tout ça, ça doit concourir pour que la paix revienne chez nous. Et cette coopération, on ne rejette pas tout ce qu'a dit tous nos co-débatteurs, et toutes les voix sont à user pour que nous puissions retrouver notre quiétude. Mais quand même, il faut que nous puissions noter ceci. La population souffre. Nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de voir, nous allons plaider sur le plan humanitaire, mais c'est ce que nous ne devons pas oublier, il faut que nous puissions tenir compte qu'un jour, il y aura une justice qui sera faite. Maintenant, comment est-ce qu'on aura à aller en justice sans preuve? Parce que bon nombre de nos compatriotes qui meurent, l'État doit songer à donner gratuitement. Ça, il faut que nous puissions plaider là-dessus. Doit donner gratuitement les actes de décès de nos compatriotes pour qu'un jour, si quelqu'un voudra plaider ou bien aller rester en justice, qu'il puisse y avoir au moins un acte qui atteste que on avait massacré tel était mort dans telle ou telle autre circonstance. Parce que si nous laissons comme ça, ça sera comme s'il n'y avait pas ces actes. Et comment on aura à ériger aussi des mausolées? Il faut qu'il puisse y avoir des mausolées et des actes de décès pour nos compatriotes. Et l'État doit prendre la charge de tout cela. Nous aurons à plaider pour ça.
Merci. Juvenal Mounoubo, vous avez 40 secondes pour conclure.
Merci, très rapidement. Et il faut une assistance d'urgence. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre que ce soit les ONG qui interviennent. Hein. Les gens ont été démunis, chassés de leur maison et tués. De deux, il faut une mobilisation nationale, comme je le disais. Il faut considérer que c'est le Congo. Parce que le Congo, c'est au-delà de Kinshasa. Parfois, il y a des gens qui oublient ça. Il faut vraiment une mobilisation nationale et une mobilisation internationale, comme je le disais. Je suis d'accord avec les députés Elvis sur ce point ici. Il faut nettoyer les écuries d'OGS. C'est très important. Il faut balayer. Et ça doit être ça, le travail aussi de l'auditorat militaire. S'il y a des militaires qui sont impliqués dans des mafias et tout, pour que la gestion de l'armée ne soit pas bonne, eh bien, il faut des poursuites et des sanctions à ce niveau-là. Il faut aussi, pour les quelques personnes qui étaient arrêtées et qui étaient considérées comme les cerveaux des ADF en Ouganda, parce qu'il y a un procès qui devait se passer là-bas, eh bien, il faut que, comme le procès de Jamil Mukulu, par exemple, normalement, le Congo a tout intérêt à suivre, à faire le monitoring et à demander à l'Ouganda quelle est la suite ou le sort qu'il avait réservé à ces personnes qui étaient arrêtées, qui étaient censées être jugées là-bas. C'est des nationaux ougandais qui étaient des cerveaux moteurs des ADF.
Merci. Juvenal Mounoubo, jeune Colondois, depuis l'État congolais doit jouer son rôle de protéger sa population. Merci Olivier Moulibi qui nous suit depuis Kamituga au sud Kivu, ingénieur Muller Kitambala depuis Kolwezi, sagesse annonciateur depuis Goma. Merci beaucoup, vous êtes tellement nombreux, on ne sait pas lire toutes les réactions. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Duna Madimba, Jonathan Fualani, Willem Lungamba et tous les stagiaires derrière la baie vitrée qui sont avec nous dans cette émission. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.